Le couple n'a pas très bonne réputation. Ce n'est pas pour rien que les contes de fées s'arrêtent à « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Au-delà de cette limite narrative, c'est une autre histoire. Plan-plan. Car le couple rime avec « routine » ou avec « conjugal », qui est d'ailleurs souvent accolé au mot « enfer » ou « violence ». Donc soit le couple n'a rien à raconter, soit il camoufle d'affreuses réalités, Jacqueline Sauvage confirmera. Bref, le couple aujourd'hui se situe quelque part entre l'ennui et le martyre. Et voilà que la littérature déboule et s'étrangle. Mais pas du tout! Mais quelle est bête cette Dupont-Mono! Mais c'est l'inverse, vous n'avez rien compris! Le couple est le lieu de toutes les audaces, de toutes les subversions. Oubliez Nuit Debout, les frondeurs du PS, l'anarchie et Cécile Duflot. La vraie révolution, c'est le couple. Orphée, Eurydice défient les lois des dieux. Les adultères, Tristan et Iseult font un bras d'honneur à l'ordre royal. Roméo et Juliette torpillent les règles familiales. Et je pourrais vous en citer d'autres. Tenez, le dernier en date. Il est hors la loi, il est en cavale. Et il occupe Romanesque, le dernier et majestueux livre de Tonino Benacquista. Romanesque, c'est donc l'histoire d'un couple au Moyen-Âge qui s'aime très fort et au mépris des convenances. Mais pourquoi est-ce qu'ils restent enfermés dans leur cabane, s'interrogent les villageois qui alertent les autorités. On décide de punir les récalcitrants. Et ils vont passer leur vie à être punis parce qu'à chaque fois, leur amour dérange et chahute les normes imposées par une société, par Dieu ou par le temps. Et oui, un couple, ça provoque plus de remous qu'une AG syndicale. Et à France Inter, on sait de quoi on parle. Alors, le temps d'un apéro, je formerai, non pas un couple, mais un duo autour d'un amuse-bouche avec Tonino Benacquista. Nous lui demanderons comment il écrit, ce sera le procès-verbal. Quels sont ses goûts culturels un peu kitsch, ce sera Les Inavouables. Et Frédéric Becbédé viendra briser notre binôme.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonjour Tonino Benacquista.
Bonjour.
Votre couple qui a mis le bazar partout, il a ni nom ni prénom.
Non.
Et pourquoi?
Oh ben ça, la réponse est très très simple. C'est tout simplement pour que le lecteur puisse se projeter, quoi. C'est-à-dire, voilà, si je les avais appelés Pierrette et Jean-Luc, d'une certaine manière, voilà, on a plus de mal à s'identifier au personnage. Là, c'est un homme qui rencontre une femme. Et donc, à partir de ce moment-là, et en plus, leur histoire d'amour est d'une certaine manière assez banale dans son point de départ. Donc, c'est pour l'identification du lecteur.
Et qu'est-ce qu'on leur reproche, au fond, de s'aimer, en fait?
Oui, c'est-à-dire que le sentiment qui les lie est très banal, comme je l'ai dit là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le coup de foudre de tout le monde. Tout le monde a vécu, en tout cas j'espère, a vécu ce coup de foudre et cette envie de cette phase passionnelle que peut vivre un couple. Et à partir de ce moment-là, les propres règles qu'on se fixe à deux deviennent beaucoup plus enthousiasmantes que celles qui régissent la communauté.
Alors, vous dites quand même que cet amour-là, il existe avant que, je vous cite, « pragmatisme, réalisme, empirisme, rationalisme ne le fasse front commun avant que la peur de souffrir ne fasse souffrir, avant qu'on lui préfère une solide garantie tout risque. » Il y a une forme d'amour originel, d'amour pur quand même.
Ouais, mais je pense que tous les coups de foudre connaissent cette intensité-là. Absolument tous, et même aujourd'hui. Après, il y a de la littérature, mais après...
Après, il y a le quotidien, il y a les chaussettes sales.
Il y a de la sociologie,
après, il y a
du quotidien, oui. Ça, oui. Eux, ils échappent au quotidien, parce que le romanesque, évidemment, va s'en mêler, oui.
Alors, romanesque, justement, c'est assez proche du mot romantique.
Oui.
Vous êtes un grand romantique.
J'avais envie que leur histoire soit subversive quand même. C'est-à-dire le romantisme béat m'aurait ennuyé très vite. Là, on est un peu dans le contraire. C'est un peu le contraire. C'est-à-dire que c'est un peu un acte de résistance. Voilà, je le prenais comme ça. C'est-à-dire que comme je l'ai dit tout à l'heure, leur amour n'a rien de romanesque. Il est extrêmement simple et il est basique et tout le monde l'a vécu. Sauf que cet amour-là va être confronté au reste du monde. Et c'est le reste du monde qui va devoir s'adapter à leurs sentiments. Voilà, c'est un peu l'histoire de ce roman.
C'est-à-dire oui, mais là, vous êtes à rebours aussi, c'est qu'en règle générale, les histoires d'amour, souvent, il y a ce coup de foudre assez fort, effectivement, très pur, très propre, quelque part, mais qui va être, après, un peu pollué par les contingences extérieures. Oui. Encore une fois, on achète une maison secondaire au Tréport, on se met à bosser, on fait des enfants, et très vite, la belle énergie des débuts, c'est la fameuse phase 1, comme disait Magazine Féminin, se transforme en phase 27, et en général devant l'avocat.
Donc, et ça ne leur arrive pas à eux pour des raisons romanesques, c'est-à-dire qu'ils auraient peut-être vécu toutes les étapes qui vont de 20 à 27, sauf qu'ils sont fauchés au moment où ils sont encore très très amoureux. Donc voilà, ils vont être condamnés à mort parce qu'ils sont... ils n'arrivent pas à faire avec le système.
Alors ça n'est pas la fin du livre, je rassure l'auditeur. Voilà, c'est l'auditeur.
Et sauf que voilà, ils auraient peut-être aussi connu cette érosion si on leur avait laissé cette chance de vivre leur histoire d'amour jusqu'au bout. Ce qui n'est pas le cas. Ils vont être fauchés et à partir de ce moment-là, ça va durer 1000 ans. Quoi.
La littérature, elle est jalonnée de couples mythiques. Je vous donne mon préféré, Tonino Benacquista.
Que la cithare module doucement ses accords avec le tambourin pour te plaire. Si ma volonté pouvait, mon tant aimé, parvenir à ses fins, tout ce que je t'écris maintenant, je voudrais t'en entretenir en personne. Lorsque tu partis, je suis partie avec toi, par le souffle et l'esprit, sans rien laisser d'autre à demeure que ce corps inutile et stupide.
Oula, voilà, c'était la fin, pas glamour, la fin, phase 27. Est-ce que Héloïse et Abélard, parce que c'était leur correspondance qu'on a entendue, est-ce que ce couple-là vous a inspiré pour inventer le couple de romanesque?
Non, absolument pas. Non, absolument pas, même si je suis très...
À bientôt, Tonino Benacquista. Merci d'avoir joué et d'avoir été
présent. Absolument pas. Non, c'est une histoire magnifique en même temps. Hein, commencer par le charnel, comme ça, et continuer dans le romantisme pur, dans l'intellectuel. Enfin bon. Non, on l'a pas du tout. Non.
Bon, alors je retente. Est-ce que celui-là, il vous a inspiré?
Le 23 mai au matin, une Ford roule à vive allure sur une route de campagne en Louisiane. Quand la voiture arrive à leur hauteur, les guetteurs font feu. En moins de 2 minutes, il tire 150 balles. La voiture, criblée de projectiles, s'arrête en dérapant. À l'intérieur se trouvent les corps ensanglantés de deux des hors-la-loi les plus recherchés d'Amérique, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Les deux amants semblaient être imperméables aux jugements moraux que la société portait sur eux.
Ah! Imperméable aux jugements moraux. Est-ce que votre couple, Tonino Benacquista, il est imperméable aux jugements moraux?
Ben, j'ai l'impression que non plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils aimeraient bien s'adapter. Ils aimeraient bien. Enfin, voilà, on leur dit, écoutez, c'est indécent de ne pas se marier. Donc, ils se marient. Ils sont pas contre l'idée. Sauf que, ils vont préférer être hors système, mais malgré eux, quoi. Et donc, le système n'aime pas ça. Voilà. Et ça va durer, et voilà. Même à l'époque contemporaine, ils ont du mal. Ils continuent à, parce qu'ils vont traverser les siècles. Mais, ils vont toujours avoir du mal avec l'ordre établi, quoi. Mais ce ne sont pas des rebelles. Pour moi, ce ne sont pas des rebelles.
Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'ils affrontent la colère de Dieu, ils affrontent la colère des tribus, ils affrontent la colère de à peu près toutes les communautés qu'ils traversent.
Ils agacent beaucoup.
Ouais. Ils agacent. Et on a l'impression quand même qu'ils durent, ils résistent. Et mine de rien, c'est quand même complètement à rebours de notre époque, qui ne jure que par le renouvellement, que ce soit les chaînes d'infos en continu jusqu'au couple, finalement. Et le vôtre, il tient.
Ouais.
Alors, pourquoi est-ce que pour vous, la longévité, cette longévité-là, pourquoi est-ce qu'elle vous intéressait plus que l'éphémère?
Parce que la longévité est subversive, c'est subversif. Ne serait-ce que l'idée de durer est quelque chose qui est impensable. C'est-à-dire... Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils résistent. Ils résistent. Enfin, se dire qu'à un moment donné, on va atteindre le paradis, ben non. On va préférer encore ça. Comment dire, on va avoir la nostalgie de sa vie terrestre et de sa complicité terrestre plutôt que cette espèce de béatitude que leur offre Dieu. Ce qui agace Dieu aussi, quoi. Et ils vont agacer l'enfer, etc. Je trouve que c'est même pas l'idée de fidélité. C'est que le monde n'est pas préparé à ça, voilà.
À cause de vous, Tonino Benacquista, moi j'ai passé une semaine à réfléchir au couple, jusque dans mes choix musicaux. Et à cause de vous, j'ai délaissé Jean-Jacques Goldman. Eh ben oui, parce que j'aime Jean-Jacques Goldman. Moi, c'est le couple que je ne formerai jamais avec lui. Et j'ai préféré Jeanne Chéral et Albin de la Simone qui reprennent Frank Sinatra. Si ça, c'est pas du couple.
Je sais que tôt ou tard, tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaierai d'être gay pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides, je t'aime. Et dans tes yeux je lirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. Bien vite je m'en irai sans même te dire que si je t'aime ce n'est pas de ma faute. Cela fait si longtemps que je suis là, le cœur battant à ne plus penser qu'à toi, à guetter ton regard en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi. Et si à cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne, de joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Je sens ta main se poser sur la mienne. De joie, je crois, je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
Sur France Inter.
Comme quoi, on peut faire l'amour avec la voix. Ah, c'est un peu ce que j'ai entendu, moi. Et c'est à l'amuse-bouche qu'on aura inventé la copulation sonore. Ça existe. Nous sommes avec Tonino Benacquista pour Romanesque, son dernier livre paru chez Gallimard. L'histoire d'un couple qui traverse toutes les épreuves et toutes les époques, juste pour s'aimer en paix. Alors je sais, Tonino Benacquista, que vous n'aimez pas ou que ça fait toujours bizarre de résumer un livre en deux phrases. Mais bon, voilà, ça je l'ai un peu résumé, c'est un peu blasphème, pardon. Le couple en question, Tonino, il a le public à chaque fois avec lui. Il est en cavale, il est hors la loi et il est soutenu par les gens. Pourquoi ?
Aujourd'hui, à l'époque contemporaine, parce que
Moyen-Âge, ils sont sur Twitter, oui, parce qu'il traverse ses époques.
Oui, il traverse ses époques, ouais. Non, mais parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui finit par transparaître, c'est leur... comment dire, ils sont anti-cyniques, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui se sent. C'est-à-dire que le... c'est pas, encore une fois, c'est pas du romantisme béat, mais on sent que dans leur cavale et dans leur... alors là, c'est peut-être le côté Bonnie and Clyde qui essaye d'échapper à la police et aux institutions, etc. Mais on sent à travers, on est forcément solidaire parce que on sent que ce qu'il propose n'est pas cynique.
Vous êtes assez à rebours, vous aussi, finalement, dans la littérature française, dans le sens où vous adorez le romanesque, la fiction, la saga. D'ailleurs, c'est le titre d'un de vos livres. On lira jamais un récit intimiste de vous, du genre moi, Tonino, ma vie, mon évier bouché, tout ça. Ça, on ne lira pas.
Non, je pense pas.
Oui.
Mais je pourrais éventuellement raconter une enfance qui fut...
Je vous écoute, Tonino Benacquista.
Non, mais c'est vrai que non, voilà. Mais même, j'ai du mal même à dire, quand on me demande ce que je fais, écrivain, etc. Même le mot écrivain est un truc compliqué pour moi. Je pense que je suis un conteur. Je pense que mon métier est de fabriquer de la fiction. Et sous des formes assez diverses d'ailleurs. Voilà, ça peut être la bande dessinée, ça peut être le cinéma ou le théâtre, mais bon, le roman reste le domaine de l'intériorité. On écrit un roman pas en 2 ans, mais en 40 ans ou en 50 ans.
Alors, cela dit, mais vous racontez l'histoire en narrateur omniscient. Ça, c'est mes résurgences de Cagne.
Oui,
c'est-à-dire le narrateur surplombant. Absolument. Donc, vous surplombez l'action, mais vous auriez pu finalement vous glisser dans la tête de l'homme et puis ensuite de la femme,
non,
parce qu'il y a une alternance.
Non.
Et pourquoi vous ne l'avez pas fait?
Je ne pense pas. De toute façon, ils sont tous les deux. Je pense qu'ils ont, ils traversent chacun de leur côté suffisamment d'événements, chacun de leur côté. Non, non, parce que déjà, je pense que c'est un roman où c'est à peu près le degré zéro de la psychologie. Il y a très, très peu de psychologie dans ce roman.
Ah oui, alors,
il n'y a que du romanesque.
Là, du coup, vous le vendez super bien, votre livre.
Oui, moi, je trouve.
Non, mais il y en a de la psychologie.
Non,
quand même,
il y a très peu, très, très peu. C'est-à-dire que, voilà, c'est eux deux représentent un sentiment en marche, mais un sentiment que nous avons tous connu. Sauf que, voilà, le romanesque fait que, c'est, voilà, ils vont essayer de surmonter. Et ce sentiment va essayer de surmonter des épreuves. Mais c'est juste ça, quoi. Mais c'est un exercice romanesque. C'est une épopée. Et c'est aussi la manière dont on raconte les épopées. Mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça, c'est un autre aspect du bouquin. Parce que, effectivement, comme je m'intéresse à la fabrication de fiction, et là, en l'occurrence, c'est comment une rumeur ou un fait divers qui aurait eu lieu il y a 1000 ans va devenir aujourd'hui une légende.
Ben, résultat, le couple assiste à l'élaboration de sa propre légende.
Oui, voilà.
Donc, vous avez quelque chose avec aussi l'oralité.
Ah oui, ça, c'est sans doute. Ben, c'est-à-dire que, en fait, là, en l'occurrence, leur histoire, bon, ils la racontent eux-mêmes quand même au travers des siècles. Bon, ça, c'est, ils y contribuent beaucoup, mais à un moment donné, elle va trouver sa juste forme. Parce que, d'une certaine manière, tout le monde s'y est mis. On s'y est tous mis. On a raconté, au fil des époques, cette histoire. Et la tradition orale a fait que, aujourd'hui, c'est devenu une légende. Pour trouver une forme universelle. Ça, quand on fabrique de la fiction, il y a quelque chose de merveilleux. Voilà. Pourquoi cette histoire est devenue universelle. Ça, je trouve ça magnifique.
C'est pas la première fois que vous vous intéressez aussi aux bannis.
Vous avez besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de vous.
Si je l'ai raconté, que vous me faites chanter. Vous dissimulez des preuves.
Je ne le ferai pas. Et même, plus rien à perdre, moi.
C'était L'Outre-Mangeur, le film avec Eric Cantona, sorti en 2003, adapté de votre bande dessinée, réalisée avec Jacques Ferrandez. Je le recommande aux auditeurs parce que moi, cette bande dessinée, L'Outre-Mangeur, sortie chez Casterman, c'est une des plus belles que j'ai lues. Il est banni, il est un peu en marge. Vous avez quelque chose avec les marges, Tonino Benacquista, ou je me trompe encore, comme pour Héloïse et Abella.
Non, vous ne trompez pas du tout, non. Oui, les personnages en marge, mais les personnages marginaux, enfin, ils sont évidemment éminemment romanesques. C'est à partir d'eux qu'on fabrique des histoires.
Oui, mais les vôtres, ils sont bannis, souvent.
Bah là, l'outre-mangeur, c'est un type qui pèse 140 ou 150 kilos et qui est en même temps flic. Donc, c'est, d'une certaine manière, il est censé représenter l'autorité, sauf qu'il suffit de le voir apparaître et puis on s'aperçoit que c'est quelqu'un de très vulnérable. Donc, est-ce que, oui, ça suffit au bannissement, oui, je pense, oui.
Il est temps de passer en cuisine, Tonino Benacquista, et de connaître vos recettes. Ne niez pas, nous savons que vous savez. Voilà, c'est l'heure du procès-verbal. Votre nom
Benacquista.
Prénom
Tonino.
Vous écrivez assis, couché ou debout?
Plus couché maintenant qu'à une époque, oui.
Donc vous êtes couché dans votre lit
ou canapé? Oui, dans un canapé, oui. C'est-à-dire que j'écris à la main maintenant, je dirais. Depuis quelque temps maintenant, je me suis mis au crayon noir et à la gomme.
Pour effacer donc.
Oui.
Et pourquoi?
Parce que je me suis aperçu que l'ordinateur, j'ai 30 ans d'ordinateur, mais je me suis aperçu que d'une certaine manière, on est toujours un peu connecté avec un ordinateur. Alors qu'avec un bout de papier et un crayon quelque part, je trouve qu'il y a une concentration meilleure, quoi.
Enfin... Musique ou silence, du coup?
Ah non, silence.
Et quand vous levez la tête de votre canapé ou de votre lit, qu'est-ce que vous voyez?
Rien du tout.
Un mur?
Oui.
C'est une chose que vous voyez, un mur, une fenêtre?
Oui, je vois un mur, une fenêtre, mais je ne vois pas de tableau ou de je sais pas quoi. Enfin,
vous voyez le tableau du ciel, vous avez vu, moi aussi je peux écrire des livres. À quoi ressemble votre pause?
Ma pause, écoutez, alors j'entrecoupe le travail de tâches ménagères, parce que je trouve que l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire je lance une lessive.
Mais votre épouse doit être très contente?
Oui, très. Et comme elle écrit de son côté, elle... Voilà, je la dérange pas trop parce qu'elle écrit des choses sérieuses et moi des choses un peu moins. Et donc, je m'occupe beaucoup de tâches ménagères, mais je me plaisante pas vraiment en disant ça. C'est-à-dire que je lance une lessive et puis, voilà, le chapitre sur les amoureux rebelles, etc., il y a quelque chose qui continue de... Voilà, et je retourne à mes amoureux rebelles après.
En période d'écriture, vos repas, c'est frugal ou c'est gargantuesque?
Non, plutôt frugal.
Oui, plutôt frugal.
Non, puis même, c'est comme je me réveille très très tôt, en période de roman, j'entends. Comme je me réveille très très tôt, je me couche assez tôt aussi, ce qui est assez triste. Et c'est une existence assez morne, en fait, quoi.
Donc, oui, enfin, vous dépolez quand même votre femme, donc
oui.
C'est déjà pas mal.
Oui, mais c'est pas très festif, je veux dire, voilà, c'est pas... J'aurais aimé, je sais pas, faire la fête jusqu'à 6h du matin et ensuite commencer à travailler, comme tous ces écrivains du 19e, mais je n'ai pas la santé suffisante, donc je me couche très tôt et je me lève tôt.
Merci Tonino Benacquista, vous êtes libre.
Merci.
Les femmes aussi, grâce à vous. La preuve avec Woman de Diana Gordon. Vous avez eu transition, hein? Transition?
Dites. Pas mal. Ouais.
woman, got a whole lot of nerve, she the flame in the fire. Woman, woman, she's a lover and a fighter and a king and a mother. Woman, woman, turn a boy to a man, build a whole empire. That woman got a story, with a halo standing in her glory. Woman, woman, take a trip to the moon on the curves of her body. Woman, woman, one hand on a pussy and the other on a Harley. Woman, woman, she could dance all night, make your coffee in the morning. That woman, she from Venus, don't play around, baby, she a genius. God gave you the answer when he gave you the woman. Jack of all trades, put the money on the counter. Woman, woman, she's the balls and the brains. No, don't you ever doubt her. Woman, woman, got a finger on the trigger and she coming for the power. That woman, she's a dangerous, so holy like she's covered in that angel dust. God gave you the answer when he gave you the woman.
Écoutez la Musebouche sur France Inter jusqu'à 20h. Notre invité, c'est Tonino Benacquista pour Romanesque, paru chez Gallimard. Ah, ça c'est Bec BD. Ça, Tonino, je suis désolée. Ah, ça va, bon, j'arrive, ouf. Ok, on y va, il est en retard.
Oui, bah, vous pourriez ouvrir plus vite quand même. Voilà, bah, je continue de sonner, voilà.
C'est pas mal, hein, vous êtes chez moi, vous continuez à sonner. Bonsoir Frédéric.
Ça va Clara?
Fort bien, j'attends avec impatience une excuse.
Oui, alors excusez-moi, je suis désolée.
Super tard.
En fait, c'est parce que j'étais en train de faire la sieste.
C'est
oui,
ça. C'est une forme de révolution en même temps.
Je suis sorti tard et je faisais la sieste. Mais c'était pas en lisant Tonino Benacquista, parce que son livre m'a, au contraire, provoqué un réveil en moi et m'a donné beaucoup d'énergie.
Je n'en doute pas.
Comme d'habitude, vous lui avez parlé avant que j'arrive, mais vous lui avez parlé de son dernier livre en oubliant totalement toute son œuvre.
Absolument.
C'est bien ça.
Absolument.
D'accord.
Mais je crains que vous soyez payé même pour
oui.
ça.
Heureusement que je suis là, parce que franchement, Tonino Benacquista fait partie d'un trio d'écrivains avec Daniel Pennac et Daniel Piccoli qui ont complètement réveiller la narration romanesque. Ils ont commencé par écrire dans la série noire, ces auteurs-là. Donc ils viennent de la vraie fiction, hein. Et puis alors après, on a un problème pour arriver à définir ce que fait Tonino Benacquista. C'est vrai que c'est compliqué à résumer parce que ça part dans tous les sens. En fait, il dit qu'il a jamais écrit d'autobiographie, mais dans La Commedia des ratés, en 92, il parle de l'Italie et un petit peu de lui-même, hein. Donc on peut très bien imaginer qu'il le fasse un jour, qu'il revienne à ça, qu'il fasse un livre plus personnel. J'en sais rien. D'ailleurs, écrire de la fiction, c'est toujours parler de soi. Donc, le problème est réglé.
C'est vrai que...
Alors, j'essaie de chercher, par exemple, dans Trois carrés rouges sur fond noir, en 1990, il parle de l'art contemporain, dans Les morsures de l'aube, en 92. Là, c'est l'histoire d'un octambule mondain. Puis le livre, et comme le film tourne au cinéma de vampires, au roman de vampires. Quel rapport entre l'art contemporain et les vampires? Bon, après, il y a Saga, Grand Prix d'électrice de L, en 98, quand même. Des auteurs qui écrivent un feuilleton télé que personne n'est censé voir et que tout le monde va voir. Ça devient un succès involontaire. Donc on pourrait dire que là, c'est un hommage à la fiction romanesque déjà. Ces auteurs qui finalement sont rattrapés par un succès involontaire. Ensuite, en 2001, il y a quelqu'un d'autre, deux hommes qui parient qu'ils peuvent changer de vie. Alors là, il y a peut-être un thème, c'est l'idée de changer de vie, l'idée de désobéir, l'idée de fuir, de s'enfuir. C'est aussi le thème de Malavita, un livre adapté par Luc Besson. Donc c'est une famille de mafieux américains repentis qui se cachent en Normandie. Donc ça commence à faire deux fois, et puis romanesque, troisième fois, que quelqu'un échappe à la société, qu'un couple échappe à la société. Donc ce serait peut-être ça l'obsession de Tonino Benacquista. Tous vos romans finalement racontent l'histoire d'un personnage qui veut échapper à sa vie toute tracée. Vous montrez des gens qui ne sont pas ceux qu'on croit. Kafka dit que le roman c'est la hache qui brise la mer gelée en nous. Mais vous, c'est plutôt une hache qui sert à tuer tout le monde et foutre le camp en courant. À s'évader, à s'échapper. J'en déduis que peut-être vous ne vous aimez pas tellement et que vous pensez que le roman permet d'échapper justement à l'existence morne qui consiste à allumer le lave-linge en réfléchissant. Et c'est peut-être ça, c'est j'essaie de vous psychanalyser, Tony.
Bah oui. Ce qui est bien, parce que ça m'évitera de le faire, moi, dans un prochain ouvrage.
C'est gratuit.
C'est ce que j'appelle le sens, quoi. Quand il y a autant de sens en si peu de phrases.
Sauf que là, il parle de vous.
À quoi bon écrire un bouquin?
Oui, mais en même temps, c'est un peu facile, là, Tonino Benacquista, parce que là, ce que fait Frédéric Beigbeder, c'est qu'il parle de vous.
Oui.
Et est-ce que c'est intéressant ce qu'il a dit? Tout n'est pas complètement.
Ça, merci. Chez Frédéric Beigbeder.
Bien sûr. Mais que non, oui, mais j'aimerais bien que vous réagissiez sur ce qu'il a dit. Sur.
Au fond, au début, il a essayé de faire une autobiographie. Il n'y est peut-être pas arrivé ou il n'a pas eu le courage. Et depuis, il raconte des gens qui échappent à la société.
Oui, je pense que. Non, mais par exemple, vous citez un roman qui s'appelle Quelqu'un d'autre. Ouais. Bah oui, c'est à un moment donné, on se pose tous une question aux alentours de la quarantaine qui serait: est-ce que j'ai fait les bons choix? C'est une question essentielle, on se la pose tous, voilà. Et moi, je me la suis posée à la quarantaine. Alors évidemment, je parle beaucoup de moi dans ce bouquin, mais je pense que s'il n'y a pas un dispositif narratif, comment dire, qui va vite avec des situations où il se passe beaucoup de choses, ça tourne effectivement, ça peut virer au espèce de souvenir un peu ennuyeux, etc. Donc effectivement, j'ai écrit des séries noires. Toutes parlent de périodes que j'ai vécues et de boulots que j'ai exercés. Sauf que là où ça ne concerne que moi, bah ça, peut-être je peux emmener quelques lecteurs avec moi quand je passe par la fiction.
Pourquoi ? Parce que c'est indécent de parler de soi frontalement, au fond ?
En tout cas, je pense que voilà, quand j'ai traversé un milieu, j'ai pu le décrire, ça devient intéressant si on suit une histoire. Si c'est en soi une espèce de chronique de choses vues, ça devient assez ennuyeux, je pense. Voilà.
Et je pense qu'il a peur de l'ennui, c'est sûr. Ça se voit. C'est d'ailleurs, merci beaucoup. Merci. Mais... parce que vous n'êtes pas nombreux, les écrivains, qui ont peur de ça.
Oui, j'ai peur de l'ennui. Mais
en termes de forme, est-ce que j'ai tort si je dis que votre style a beaucoup évolué vers la sobriété dans ce dernier livre, qui est très spectaculaire. Par ailleurs, le style fait penser à La Route de Cormac McCarthy. C'est extrêmement simple, extrêmement basique.
Je crois que c'est une langue assez simple, même si elle peut paraître de temps en temps un peu figée ou un peu datée. L'important, c'était de trouver la langue du conte. Voilà. Mmh. Qu'on se dise, voilà, c'est comme ça qu'on raconte les contes. C'est-à-dire, pas de termes ultra contemporains et pas non plus une espèce de faux vieux français, juste la langue qui suit Il était une fois.
Vous avez la même
façon. C'est pas si facile non plus.
Non, je viens de le croire.
Parce qu'Il était une fois, on l'a repéré, mais c'est la suite qui est compliquée.
Mais les griots ont la même préoccupation que vous.
Sans doute.
Ben oui, en Afrique, c'est exactement
sans
ça,
doute.
Avec l'idée de la transmission.
Ah oui.
Et l'idée d'acte de fabulation,
ça, c'est important, ouais.
Qui permet de...
C'est un italien, c'est presque pareil.
Non, mais non, j'ai appris plein de trucs, ça me...
Vous avez appris plein de trucs.
Ah bah oui.
Ah bah vous voyez, c'est pas venu pour rien.
Que je pouvais pas repérer. Et puis en plus, ce roman est vous avez écrit un roman qui s'intitule L'amour dure 3 ans.
Oui, c'est vrai,
voilà,
oui.
C'est ça.
C'est
là,
le contraire.
Il dure 1000 ans.
Oui,
voilà.
Oui, c'est vrai.
C'est l'anti-Beck.
On devrait débattre de ça. Oui.
On peut débattre ça. 3 ans, 1000 ans, mais enfin, en même temps, on décrit la même passion en même temps.
Oui.
Vous n'êtes pas au bout de vos peines, hein, Tonino Benacquista, puisque nous avons maintenant la séquence des inavouables, qui est un peu la séquence révélation. Vous qui n'aimez pas trop vous déshabiller, mais un écrivain n'est jamais qu'un homme. Pardonnez-moi, mais enfin, donc forcément, une zone d'ombre. Tonino Benacquista, est-ce qu'il y a un film, un livre ou une chanson catalogué un peu kitsch, un peu ringarde, et que vous aimez en fait secrètement?
Mais oui, mais alors à partir du moment où... Enfin, j'arrive pas à penser que c'est inavouable. C'est-à-dire, c'est l'idée de l'inavouable. Par exemple, les fantomas d'André Hunebelle, par exemple, qui sont considérés comme kitsch, j'arrive pas à voir ce qu'ils ont d'inavouable. Quand je vois ma compagne qui est très...
Donc déchargée des tâches domestiques.
Voilà, qui est très inquiète quand je me mets pour la... 150e fois par an Fantômas contre Scotland Yard, je sens qu'il y a quelque chose d'inavouable dans son regard.
Ah,
mais
moi, voyez.
Non, moi non.
Eh ben, il y en aura une 151e.
Allez-y.
C'est votre amuse-bouche.
Ben, j'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça.
Qui ça ?
Fantômas ?
Ah ! On voit là ! On voit là ! C'est Fantômas !
Fantômas, un titre éclatant.
Mais alors, croyez-moi, plaf ! Là, ça va faire du bruit.
Avec Jean Marais. Un Jean Marais qui se surpasse. Et Louis de Funès, qui, rivalisant avec Jean Marais, est devenu...
Mais où t'es ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Sportif. Téméraire. Fantômas. Personnage mystérieux. Diabolique. Cruel. Fantômas, un homme... pas comme les autres.
Voilà, et moi je plaide pour qu'on fasse nos annonces comme ça sur France Inter.
Oui, c'est très bien.
Un Patrick Cohen qui se surpasse, un Bernard Guetta qui n'est pas un homme comme les autres, un Frédéric Bavédé qui est devenu sportif.
Il y a des films, non mais il y a des films dangereux, hein, moi cela dit. Moi, une fois j'ai emmené ma fiancée voir Dumb and Dumber et elle m'a quitté.
Ah oui.
Mais la compagne de Tonino, elle reste visiblement quand même.
Oui,
elle est inquiète quand même.
Elle est inquiète, elle se dit dans quel état est-il, etc., etc. Alors que moi, je persévère. Moi, Jean Marais avec la voix de Raymond Pellegrin, le rire sardonique de Raymond Pellegrin et ce masque en plastique vert ou bleu, tout dépend de l'éclairage.
Vous voyez, un peu kitsch quand même.
Ouais. Mais moi, pour moi, c'est du premier degré. Moi, quand j'ai eu cette chance de rencontrer Mylène de Mongeau, je l'ai appelée Hélène. Où est le bien, où est le mal, Hélène ? Enfin, pour moi, c'était quelque chose de très familier. C'est un film que j'ai vu dans un drive-in à Rungis, au moment de sa sortie, avant que Léal ne s'y installe. Donc, pour vous dire, c'était le seul drive-in qu'il y avait eu. Alors, c'est une telle... je suis tellement associé à cette projection dans une voiture avec de la pluie. Enfin, bon, voilà, c'était ma minute un peu...
Un peu lyrique.
L'enfance.
Oui, et puis hop, un peu déshabillante, finalement.
Oui, oui, oui.
Clara, vous avez une obsession quand même de déshabiller Tonino depuis le début
de
l'émission.
C'est à cause de vous.
C'est bizarre.
Mais oui, mais je suis une femme pelure.
Okay.
Voilà, je guette les pelures et mon but est de les enlever les unes après les autres.
Ouais, ouais.
Et en parlant de pelure, il est l'heure de passer à table. Pour les auditeurs aussi, rejoignez vos conjoints pour faire la révolution. Romanesque de Tonino Benacquista est paru chez Gallimard. La semaine prochaine, nous recevrons Amélie Nothomb pour Ricky à la houppe chez Albin Michel. La muse-bouche a été préparée par Marie-Annick Rimbaud, Amel Caldi, Thierry Dupin et à la régie Julien Dumont. Juste après, le moment que vous attendez tous, sexy et funky, j'ai nommé Expression Directe. Après 20h, ce sera Zoé Varier avec D'ici et d'ailleurs. Restez en couple et lisez, vous vivrez centenaire. À samedi, on vous embrasse.